Jérôme Glachan, je m'occupe d'un master pro à l'Université d'Évry en banque et finance.
Vous parlez bien dans le micro.
Je m'occupe d'un master pro à l'Université d'Évry en banque et finance. Donc je suis Jérôme Glachan. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut distinguer le niveau master et le niveau licence. Ça me paraît vraiment être le problème. C'est que, en fait, on a des masters qui n'en sont pas. Enfin, je ne parle pas des nôtres, hein, mais on a beaucoup de masters qui n'en sont pas, comme vient de le souligner Antoine, et qui donc forment des gens à un niveau qui est un niveau licence professionnelle. Et on le voit dans les entreprises. Je pense que effectivement, on envoie un stagiaire dans une entreprise et puis on demande à la direction de l'entreprise alors comment s'est passé les choses, et on compare cet étudiant de master avec un étudiant de licence professionnelle. C'est un petit peu vexant, mais on en est là. Effectivement, il y a beaucoup de masters, on a trop d'offres de masters, on a trop d'étudiants en master, et à côté, je pense qu'on n'a pas suffisamment d'étudiants en licence, et notamment en licence professionnelle, avec des vraies sorties après l'obtention d'un diplôme de licence. Qu'il soit un diplôme professionnel, enfin licence pro, vocationnel quoi, ou un diplôme plus à l'américaine ou à l'anglaise, plus général, mais qui permet éventuellement ensuite une reprise d'études. Donc quand on se pose la question de savoir ce qu'on doit faire des 50% d'étudiants qui doivent avoir le bac, je crois qu'il faut mettre beaucoup de moyens sur des orientations vers des licences professionnelles et qui soient compatibles avec ce que l'on fait nous en L1, peut-être pas en L2, mais en tout cas qu'on puisse accueillir ces étudiants et qu'on soit en capacité ensuite de les orienter vers ces licences professionnelles. Aujourd'hui, je peux vous parler de l'université, je me suis occupé longtemps de la licence, on n'en est pas capable. Le type de cursus que l'on propose ne permet pas d'orienter les étudiants vers la licence professionnelle. Il n'existe pas de clientèle, enfin d'étudiants qui auraient un DUG, enfin, un niveau L2, et qui iraient en licence professionnelle. Ils sont extrêmement rares. D'accord ? Ceux-là, quand ils ont le DUG, ils se précipitent en licence et ils veulent continuer vers le master parce qu'un niveau Bac plus 5, c'est beaucoup mieux. En fait, ces niveaux Bac plus 5 ne sont pas des vrais niveaux Bac plus 5, en tout cas pas tous. J'observe aussi, quand je fais de la sélection dans le master, que beaucoup d'étudiants ont déjà obtenu des masters ailleurs. Donc, ils refont des masters sans arrêt. Donc là, il y a vraiment un point qui est d'avoir des masters qui en sont, qui sont des vrais diplômes Bac plus 5, ce qui implique, à mon avis, une sélection à l'entrée en M1. Et puis des licences avec une vraie sortie licence pro, ce qui implique de travailler avec les collègues d'IUT, enfin en tout cas de changer nos manières de faire. Et donc ça pose des problèmes. En matière d'innovation, je crois que tout ça aussi est lié à la manière dont on conçoit nos cours et en tout cas notre type d'enseignement. Je pense qu'on ne fait pas assez d'études de cas, je pense qu'on ne fait pas assez d'études où on montre que l'économie est une science appliquée, donc qui part de choses concrètes, dès le niveau de la licence. Enfin, c'est des choses qui ont déjà été soulignées, qui sont bien connues. Mais je crois qu'on a encore des efforts à faire. On en a déjà fait des efforts. On a déjà, je pense, en tout cas, nous, dans notre université, je sais que ça s'est fait ailleurs, on a déjà beaucoup réformé les cursus, mais il faut aller encore plus loin pour rendre le cursus comme des cursus vraiment actifs, dans lequel l'étudiant applique ce qu'il a vu en cours, et c'est pas évident. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est pas forcément la mise en place de colles, d'exercices peut-être un peu répétitifs, hein, au sens péjoratif, dont on a besoin. C'est-à-dire que c'est facile de faire des colles en microéconomie, pour dire les choses simplement. C'est beaucoup plus compliqué que de partir d'une étude de cas à un niveau de L1 ou de L2 et puis essayer de monter un truc. Et ça demande des compétences spécifiques. Donc ça demande aussi un encadrement pédagogique qui soit un encadrement pédagogique de qualité. Quand je dis de qualité, pas simplement des gens qui sachent calculer, mais des gens aussi qui aient un regard sur la vie réelle, qui lisent The Economist, qui soient un peu aussi, qui donnent de l'intérêt à tous ces enseignements théoriques qu'on donne derrière. Et on a une limite, et la limite qu'on a à ce niveau-là, à mon avis, elle est dans la qualité des... on a une limite de qualité de quantité, des équipes d'encadrement. Je crois que c'est extrêmement difficile de faire des cours en L1, L2. Je vois que les collègues ne se précipitent pas sur les cours de L1, L2. Quand on ouvre un cours du type problème économique contemporain, on a plus de mal à trouver des enseignements qu'un cours de microéconomie normale. Et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller 2 heures devant des étudiants à leur exposer des choses, après à faire un travail sur des textes, etc. Il n'y a pas de rémunération supplémentaire pour les gens qui s'engagent dans ce genre de choses. Et c'est ça qu'on doit faire. Parce que c'est comme ça qu'on fait que l'économie, ce n'est pas une science morte ou mathématique ou je ne sais quoi. Donc, la qualité des équipes d'encadrement est un vrai problème. J'ajouterais d'ailleurs que là-dessus, moi je suis assez inquiet par l'évolution. Alors après, on a beaucoup internationalisé nos cursus et on a de plus en plus de doctorants qui sont des doctorants étrangers. Moi franchement, je m'en félicite. Enfin, je trouve que c'est très bien qu'on ait des doctorants étrangers. Il n'empêche que ces doctorants étrangers qui sont destinés notamment à être des assistants via le système des moniteurs ou des athères ne sont pas forcément ceux qui sont les plus capables de faire cette science économique dont je parle, qui est appliquée dans un contexte institutionnel, etc., au niveau du L1. Ils peuvent être très capables de faire des exercices de microéconomie. Donc là aussi, on a un problème de qualité qui se pose. Et je pense que pour ça, il faudrait essayer de débloquer les choses. Il faudrait que des collègues du secondaire viennent nous aider, viennent qu'on apprenne aussi peut-être un peu d'eux, que les choses, qu'il y ait plus de passages entre les deux, pour que justement on ait une meilleure qualité d'encadrement pédagogique au niveau des L. Voilà.
Merci.
Oui, moi, je viens des sciences économiques et sociales du second degré. Alors, si vous nous demandez de collaborer avec vous pour étudier notamment les faits économiques pour lesquels vous n'avez pas beaucoup de...
Il ne faut pas trop bouger le micro. Vous mettez le micro.
Nous sommes, je crois que mes collègues plus jeunes sont prêts à venir parce que c'est ce que nous souhaitons faire, c'est ce que nous faisons, nous. Et pour dire les choses, pour répéter peut-être les choses, nous voulons justement partir de ces problèmes économiques et sociaux et pour donner à nos élèves le besoin d'acquérir les mécanismes, les théories, les concepts dont nécessaires pour comprendre. C'est pourquoi, quand même, je voulais, depuis un moment, dire à M. Andreff que les normaliens qui apprécient votre cours, monsieur, eh bien, oui, je comprends bien qu'ils les apprécient parce que c'est ce que nous tentions de faire. Les normaliens qui vous ont eu, c'était des élèves notamment du lycée Henri IV en Hippocagne et Cagne BL. Alors bon, ça ne m'étonne pas. Alors je crois que bien sûr qu'il faut, Monsieur Gaffard, il faut apprendre, acquérir des connaissances, c'est pas toujours un plaisir. Mais ce qui est toujours un plaisir, c'est de comprendre. Et il faut ne pas trop attendre. Justement, le plaisir de comprendre, et enfin, je crois que nous sommes d'accord, mais si on pouvait évidemment multiplier les cours tels que les faisait ou le fait M. Andreff, ça serait tout acceptable. En tout cas, comme le dit Alain Béton, ce qu'il faut, c'est peut-être profiter de ce remue-ménage, je vois chez vous, et en tout cas chez nous, ça tout le monde le sait, pour améliorer justement les relations et éventuellement la coopération avec le premier cycle, le L1 et le L2 dont vous parlez.
À 5 km de mon université.
Non, ça marche à condition de parler dedans.
Pardon, j'ai un lycée prépa qui est juste à 5 km de mon université ou à 8 km, qui est donc juste à côté, donc on a un corps professoral qui pourrait nous aider, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de collègues secondaires font déjà des heures complémentaires, notamment à destination des prépas par le système d'école, et que ce n'est pas en leur donnant 42 euros en net et en faisant... Enfin, qui vont venir chez nous. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une volonté nationale aussi, de la part des rectorats, de dire, oui, cette distance qu'il y a entre le lycée et l'université, il faut peut-être mettre en place des services mixtes, par exemple, un petit morceau de service. Et on en est très loin, et quand on en parle devant un recteur, franchement, oui, il est sensible au discours, mais un inspecteur d'académie serait encore moins, quoi. Enfin, il y a un vrai problème à ce niveau-là.
Attendez, là, vous êtes deux à parler avec aucun n'ayant le micro. Donc pour nous, c'est un intérêt limité. Donnez le micro là-bas.
Oui, Jacques Lepotier, Université de Toulouse. Je voulais rebondir sur ce que disait mon voisin il y a 5 minutes pour à la fois confirmer et puis donner un éclairage un peu plus optimiste à la chose. Parce que je crois qu'il faut arrêter de nous plaindre sans arrêt et puis il faut agir. Et bon, les chiffres que nous avons sont les mêmes que les vôtres. Nous avons à peu près 700 étudiants en première année. Sur ces 700 étudiants, nous en avons effectivement 200 qui ne viennent jamais. Nous en avons 300 qui ne fichent rien. Mais nous en avons aussi 10% à peu près qui sont très bons. L'autre jour, on a fait une réunion de tous ceux qui avaient mention bien et très bien. Ils étaient 70. Et ce sont de très, très bons étudiants. Mais effectivement, nous avons une hétérogénéité qui est considérable et qui fait que ça ne marche pas bien du tout. Ce qui a changé, je crois, très récemment, c'est que maintenant, nous pouvons traiter cette hétérogénéité. Parce que l'autonomie des universités, c'est quand même aussi une réalité, d'un certain point de vue. L'État attend de nous que nous fassions le premier pas, à mon avis. Parce qu'il a peur de faire des réformes qui s'imposeraient. Il ne les fera pas. Et il les fera le jour où nous les aurons faites, où nous aurons prouvé que ça marchait. Et donc nous pouvons très bien, à l'heure actuelle, faire des filières différenciées. Au bout de 2 ou 3 mois d'université, nous pouvons créer ces filières différenciées. Non seulement on peut, mais on est en train de le faire, et je suis persuadé que ça va marcher. Donc, à mon avis, il faut qu'on cesse de se battre notre coulpe, qu'on cesse de se plaindre, et que nous agissions, et que nous le fassions, que nous prouvions que ça marche, et ça marchera partout.
Merci. Écoutez, s'il n'y a plus d'interventions, je vais redonner la parole à Alan et Jean-Luc. On va arrêter là, je pense, hein, pour qu'ils disent quelques mots conclusifs. Moi-même, avant de leur donner la parole, je fais juste une remarque. Il y a eu de très nombreuses questions qui ont été soulevées par Jean-Luc et Alan dans leurs introductions, ainsi que par les autres exposés introductifs du panel. Dans notre discussion, est-ce que c'est significatif ou pas, dans notre discussion, il y a quand même une question qui est sortie beaucoup plus que les autres. Donc elle a quand même probablement un rôle plus grand dans les interrogations des uns et des autres. C'est celle de la diversité des objectifs, de la diversité des débouchés, de la diversité des cursus, de l'hétérogénéité des étudiants, des problèmes de l'orientation, de la spécialisation, voire de la sélection. Ceux qui allaient le plus loin. Je suis très frappé par le fait que c'est cette question qui a finalement occupé plus de la moitié, peut-être plus, nettement plus, des interventions des uns et des autres, alors que si vous remontez aux exposés introductifs, ils avaient balayé un champ beaucoup plus large de questions. Alan, pour conclure.
Oui, en réalité, je n'ai pas grand-chose à dire après tout ce que j'ai dit, mais je pense qu'on est en réalité. J'ai tenté d'axer la première partie de mon intervention sur le fait que, pour moi, la seule réponse à l'hétérogénéité des gens qui arrivent maintenant, c'est l'hétérogénéité des universités. Et moi, je pense qu'honnêtement, on ferait mieux d'accepter ça, d'essayer de trouver une identité pour chaque université. Et comme je vous dis, c'est évident qu'on doit donner les moyens de bouger aux étudiants, parce que on ne peut pas annoncer que vous avez une très bonne université là-bas, à Lille, mais vous habitez à Perpignan et tant pis pour vous. Il faut donner les moyens aux étudiants de pouvoir profiter de ces enseignements. Mais on le fait même en Grèce, qui est un pays quand même moins riche que la France. Un étudiant d'Athènes risque de se trouver à Crète s'il n'a pas les notes qu'il veut pour aller à l'université d'Athènes, par exemple. Et il y a un système de matching aussi, même en Grèce. Donc je pense que c'est faisable. Seule autre remarque que j'aurais voulu faire, c'est sur le budget. Typiquement, on dit, mais le problème, c'est que le montant qu'on dépense par étudiant en France n'est pas suffisant. Et tout le monde dit ça, mais si on considère le montant qu'on dépense par diplôme, c'est beaucoup. Et donc, il faut quand même réfléchir à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le budget total, mais c'est aussi la façon dont on utilise ce budget. Et je pense qu'on ne peut pas simplement dire... Trop souvent, j'entends les gens qui disent « Mais tout ce qu'il nous faut, c'est plus d'argent. » Il ne faut pas changer le système. Non, non, non. Si vous nous jetez plus d'argent, on va l'éparpiller et tout va aller mieux. Mais ce n'est pas comme ça. Et je pense qu'on a quand même une responsabilité de notre côté aussi à essayer de changer le système tel qu'on utilise quand même ce budget mieux. Et ça serait nettement mieux pour les étudiants. Si l'étudiant pense qu'il va pas à être voué à l'échec après la première année, je pense que l'ambiance change dans ce cas-là. Si on arrive dans une université anglaise, on pense qu'on va terminer avec un diplôme. C'est l'exception, vraiment l'exception, la personne qui ne va pas arriver au bout. Ici, c'est le contraire. On sait très bien que la majorité ne vont pas réussir. Et déjà, dès le départ, psychologiquement, c'est vraiment un handicap. Il faut, je pense, changer ça. Et ce n'est pas vraiment une question du budget total. Et l'idée de dire, mais on garde notre système, et ce qu'on va mettre en place, c'est toute une série de personnes qui va aider l'étudiant pendant sa première année. Mais pour moi, c'est un peu comme si on mettait tous les gens sur les pistes noires, on disait, mais regardez, il y a beaucoup qui tombent. Hein. Donc, on va mettre des gens à côté pour les aider. Mais ce serait mieux peut-être de mettre les gens sur les pistes rouges et sur la piste verte, plutôt que d'accompagner les étudiants sur la piste noire. Voilà.
Merci. Jean-Luc, pour la conclusion finale.
Oui, mais moi, je voudrais dire, je suis évidemment d'accord avec Alan quand il dit qu'au fond, ce vers quoi on devrait tendre, c'est un système diversifié, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fonctions dans le système universitaire. L'exemple qu'on prend souvent, qu'il a pris de l'Université publique de Californie, c'est un très bon exemple. Simplement, le problème, c'est de savoir comment on y passe, c'est-à-dire comment on organise la transition vers ce type de système. Je dois vous dire que je suis quand même très dubitatif parce que ce qui a été mis en place aujourd'hui, qui effectivement donne l'autonomie aux universités, je veux dire d'abord qu'elle donne l'autonomie aux présidents d'universités qui vont pouvoir exercer un pouvoir sans aucun contrôle. Et ça me paraît très grave. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun rôle pour ce qu'on appelle à l'étranger un sénat académique. Et donc, on a des gens élus dans des conditions qui sont quasi politiques et qui vont avoir tous les pouvoirs. Et le résultat de ça, je crains que ça ne soit pas une diversification des établissements en fonction de projets d'établissements différents, tout aussi nobles les uns que les autres, mais qu'on va aller vers une sorte d'darwinisme social avec quelques bons établissements et beaucoup de mauvais. Alors que l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de diversifier en fonction d'objectifs, presque d'entreprises, qui seraient différents. J'ajoute, et ça a été dit par Alan aussi, qu'il semblerait que les établissements qui seraient les établissements d'excellence, ça va être des espèces de trucs énormes qui seraient des fusions d'universités, la grande université de Strasbourg, la grande université d'Aix, etc. Et moi, je me demande comment ce truc-là va se gérer. À Aix, je crois que c'est 80 000 étudiants, sauf erreur de ma part, hein, André. Donc, je ne sais pas comment on peut gérer des trucs comme ça. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il n'y a aucun choix de dire il y a des collèges universitaires, il y a des universités de recherche, il y a tel ou tel parcours. Donc je crois qu'on pense que, au fond, un pseudo-marché va gérer tout ça, va s'autoréguler. Et je suis très dubitatif sur le résultat. Je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait des décisions centrales qui soient prises. La première d'entre elles étant évidemment de mettre tous ces établissements en situation d'opérer de la sélection, de mettre un terme à l'avantage exorbitant dont disposent les IUT. Parce qu'au fond, si demain on veut faire des collèges universitaires, ben je vois très bien, un collège universitaire, à la mode américaine, au bon sens du terme, ça devrait être issu des IUT en y ajoutant une année, les licences professionnelles, en organisant des passerelles, etc. Mais s'il n'y a pas un arbitre qui dit, ben voilà, demain, il y a un certain nombre d'établissements qui vont se transformer en collèges universitaires, et c'est très bien, hein, c'est très noble de faire ce type de travail. La noblesse ne se résume pas à faire des articles dans des bonnes revues scientifiques, hein, fort heureusement. Donc ça n'est pas déchoir de faire ça, au contraire, ça a une forte utilité sociale. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions globales. Et d'une part, je l'ai dit au début, je suis à peu près d'accord avec la quasi-totalité des mesures ponctuelles qui sont prises aujourd'hui, sauf celles qui consistent à faire gérer les universités dans les conditions où on est en train de l'observer, et puis parce qu'on se refuse devant quelque chose qui est la sélection. Antoine disait c'est de l'orientation. Bien sûr, c'est de l'orientation. La sélection, ça veut dire on prend le même nombre d'étudiants, mais on essaye de les placer dans les bonnes cases. Aujourd'hui, on se refuse à nous permettre de les placer dans les bonnes cases. Et pour ce qui est de l'économie en tant que discipline qui nous réunit aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas une discipline dans laquelle il va y avoir des masses énormes d'étudiants. C'est une discipline qui concerne les trois cycles, donc qui est censée amener un certain nombre d'étudiants en nombre non négligeable au doctorat. Mais c'est aussi une discipline qui a son importance, c'est-à-dire elle doit être présente, je l'ai dit, dans 10 ou 15 pôles universitaires en France et pas dans deux. Et ça, je ne sais pas comment on peut y arriver, là aussi, compte tenu des incohérences institutionnelles dans lesquelles on se trouve. Et bon, je suis peut-être excessivement pessimiste, mais je crois qu'il y a quelques endroits, c'est pas étonnant que tu parles d'un point de vue quand même celui de Toulouse, qui a fait un travail formidable au cours des années, et qui a peut-être un peu plus d'opportunités. Dans d'autres endroits, ça va être beaucoup plus délicat. Et je pense que si j'étais en charge de l'intérêt global, de l'intérêt social, je pense qu'il y a encore des places pour des décisions centrales, à condition qu'elles soient courageuses et qu'elles aillent dans le sens du service public, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Je ne crois pas que le darwinisme social, c'est forcément la solution.
Merci. Bien, écoutez, il me reste à remercier les intervenants du panel et aussi tous ceux d'entre vous qui ont bien voulu prendre part à cette discussion.